mère de famille. Daniel Le Sur, compositeur, par son fils, Christian Le Sur.
Mon père était un homme dont l'intériorité était le trait dominant. Il était d'une grande sensibilité et parfois sensualité qu'il retenait dans la vie. Il avait un haut degré de contrôle de lui-même. C'est un homme qui ne se mettait rarement ou jamais en colère, qui, au fond, exprimait cette intériorité dans sa musique et sa création musicale. Il avait un besoin quasiment physique de composer et chaque jour, il se remettait à son établi, en l'occurrence à son piano, et goûtait ce plaisir qui lui permettait d'exprimer finalement tout ce qui restait contenu. Il se mettait au piano dès qu'il avait une minute libre. Comme beaucoup de compositeurs de sa génération, et peut-être de générations antérieures, il ne pouvait pas vivre de sa composition musicale et donc il avait, au fil du temps, accumulé des activités, notamment radiophoniques, d'enseignement ou de missions dans l'administration des arts, qui lui laissaient, mon Dieu, assez peu de temps. Et donc, il chassait les minutes disponibles qu'il prenait sur ses loisirs, sur le temps qu'il aurait pu accorder à ses amis, ou pendant la nuit, pendant le sommeil, ce qui est plus naturel. Et quand il retrouvait sa feuille de papier, les choses avaient mûri, et il était en mesure d'avancer dans sa composition. J'ai parlé de feuille de papier. Pour être complet, je dirais qu'il y avait deux autres artifacts, un crayon ou plusieurs crayons, et une gomme. Il n'y avait aucune autre technologie impliquée, outre le piano dont j'ai déjà parlé. Accomplir son œuvre, c'est ce vers quoi il a tendu toute sa vie. Et je l'ai vu, il a vécu fort âgé, puisque né en 1908, il est mort en 2002. Je l'ai vu à partir d'un âge encore relativement modéré, disons sa décennie de 70 ans. Je l'ai vu craindre souvent de ne pas achever une œuvre. C'était sa grande terreur de ne pas achever une œuvre comme son grand ami André Jolivet qui avait laissé son opéra Pogomil inachevé. Pour lui, le sens de la vie, c'était d'accomplir son œuvre. Alors, j'ai participé depuis le plus jeune âge dans le sens que, évidemment, j'habitais chez mon père et que mon père composait au piano. Composer au piano n'est pas forcément quelque chose de très agréable pour l'environnement, parce que vous procédez par essai, vous arrêtez, c'est syncopé, et puis vous essayez autre chose. Bref, c'est quelque chose qui n'est absolument pas rythmé, qui est très dérangeant. Par ailleurs, le compositeur qui se livre à cet exercice, lui, ne supporte pas le moindre dérangement. Et donc, vous ne devez pas faire de bruit. Toutes choses qui sont marquantes et contraignantes pour des enfants de très jeune âge. Donc, sa musique, je l'ai vécue de cette façon-là dans mon enfance. Et d'ailleurs, je retrouve dans certaines œuvres de cette époque assez facilement des thèmes que j'ai entendus de cette façon. Je les reconnais tout de suite. Ce qui montre bien d'ailleurs combien la mémoire des enfants est longuement impressionnée. Il m'a fait découvrir la musique, d'abord en tentant de me faire faire des études de piano, avec un succès limité, puisque ayant commencé à 5 ans, j'ai arrêté à 7. J'ai fait un peu de flûte ensuite, mais je n'ai pas fait d'études musicales. Je le soupçonne d'avoir immédiatement jugé, car il avait un coup d'œil très sûr, que je n'avais pas une nature musicale qui justifiait de grandes études musicales. Et j'aurais pu effectivement faire, probablement atteindre un niveau d'amateur convenable, mais il n'a pas insisté. Et du coup, j'ai découvert sa musique en l'écoutant, de même que j'ai découvert la musique en écoutant de la musique. Et dès l'âge de 7 ans, je me souviens très bien, il m'a emmené dans des concerts. J'en garde un très grand souvenir, comme de toutes les créations auxquelles j'ai assisté dans la suite, avec quand même pas mal d'exceptions, parce que ce qui ne se faisait pas à Paris Quand j'étais enfant, je n'y assistais pas, à moins que ce soit l'été, par exemple Aix-en-Provence. Donc, voilà ce que je peux dire. Et en faisant un saut de quelques années, je dirais que c'était suffisamment important pour que, alors que j'étais en train de faire des études à Boston, aux États-Unis, en 1969, je revienne pour la première d'Andrea del Sarto, qui est, sans conteste, l'un de ses chefs-d'œuvre. Et pour situer les choses, traverser l'Atlantique en 1969 n'était pas du tout aussi facile ni aussi peu coûteux qu'aujourd'hui. Donc, c'est vous dire que l'importance qu'on attachait à une chose comme ça, à un voyage de 48 heures à Marseille depuis Boston en 1969, pour un étudiant. Comme beaucoup de compositeurs français, je crois qu'il attachait une grande importance, enfin, où il était très sensible à des textes. Et il a écrit beaucoup de musique qu'on qualifiera de musique pure, sur des thèmes qui étaient des thèmes musicaux, souvent folkloriques. Le folklore était certainement une de ses sources. Et il a dit une fois que les deux sources dont il buvait le lait étaient respectivement le folklore et le grégorien. Le grégorien parce qu'il était organiste de formation, pas seulement, mais très fortement organiste, puisqu'il a étudié l'orgue avec le grand Charles Tournemire, et la composition aussi d'ailleurs, ce qui ne se sait pas beaucoup, parce que Tournemire n'a fondamentalement eu qu'un élève de composition, mon père, peut-être deux en comptant ma grand-mère, qui a été Alice Thibous-Lesur, qui a été très bonne compositrice amateur, qui a laissé une œuvre, et qui a étudié la composition avec Charles Tournemire au début du XXe siècle. L'Académie des Beaux-Arts a joué un rôle important pour mon père sur une série de plans. Il y est donc entré en 1982 et j'ai assisté, bien entendu, à cet événement, au discours de réception de Sauguet, à son propre discours. Et je dois vous dire que dans toutes les années qui ont suivi, jusqu'à 1995, année où un accident de la route l'a contraint de rester chez lui, les réunions de l'Académie étaient un moment privilégié pour lui, ce moment hebdomadaire, les mercredis, je crois, puisqu'il retrouvait là différents confrères et amis, de toujours ou de très longtemps ou de moins longtemps. Dans ce toujours, je citerai Olivier Messiaen, qui a fait allusion au fait qu'ils se retrouvaient sur les bancs un petit peu comme quand ils étaient au conservatoire, puisqu'ils s'y sont connus à l'âge de 12 ans, ou avec des confrères comme Serge Nigg, qu'il admirait beaucoup et qu'il appréciait énormément. Mais je devrais aussi citer, bien entendu, Marcel Landowski et plusieurs autres. Mon père aimait la poésie. Je crois que c'est un goût qui lui était inné, bien sûr, mais qui a été développé par un grand-père, son grand-père maternel, Georges Thibous, qui a joué un grand rôle dans son éducation. Parce que finalement, je crois que sa mère ne s'occupait pas énormément de lui. Que comme il faisait des études musicales intensives, il n'y avait pas ou peu d'école, à partir d'un âge assez tendre. Et il m'a souvent dit que s'il savait écrire, c'était uniquement à cause de son grand-père. Bon, en tout cas, il lui a appris le goût de la poésie. Et la poésie a été, je crois, un fil conducteur d'une partie majeure de son œuvre. Parmi les poètes qui ont compté pour lui, il y a bien sûr le compagnon à l'expression poétique merveilleusement accordé à son langage musical, qu'était Claude Roy, qu'il a rencontré en zone libre pendant la Deuxième Guerre mondiale, zone libre entre guillemets, bien entendu. Il y a aussi Henri de Monterland, qu'il n'a pas véritablement connu. Je crois qu'il l'a croisé une fois à la radio en 1939, mais il avait un tout petit rôle, et Henri de Monterland était un personnage considérable, qui n'aimait pas particulièrement la musique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de relation quelconque entre eux. Mais par contre, sur le plan littéraire, la puissance dramatique de l'œuvre de Monterland, il a écrit son troisième opéra sur la Reine morte, et aussi la force poétique, beaucoup moins connue, de Monterland, l'a séduite puisqu'il a écrit à la fin de sa vie sa quatrième cantate « Encore un instant de bonheur » sur un texte de Monterland, et que son avant-dernière œuvre, la dernière œuvre d'ailleurs, je dirais, importante, qui est un grand duo de concerts avec orchestre, où un homme et une femme échangent dans la nuit, et qui a pour titre « La nuit rêve », est également de Monterland. En dehors de Musset, qui est évidemment l'auteur d'Andrea del Sarto, que Daniel Le Sueur a porté à la scène, de Giraudoux et de son Ondine, on trouve un auteur qui est heureusement toujours vivant et bien vivant, qui est René de Obaldia, dont il mit en musique des poèmes qui, je crois, sont inédits, qui s'appellent « Les berceuses à tenir éveillées ». Vous reconnaissez tout de suite dans le paradoxe de ce titre, l'esprit obaldien. Ce sont six berceuses, au titre un petit peu paradoxaux également, et au texte très humoristique, qui ont donné lieu donc à des mélodies qui sont appréciées et chantées fréquemment. Je voudrais aussi mentionner une poétesse, parce qu'il y a peu de femmes dans mon énumération, et pourtant, ce serait faux de ne pas mentionner certaines qui ont beaucoup compté. Il s'agit de Cécile Sauvage, qui est une très grande poétesse française du début du XXe siècle et qui est aussi la mère d'Olivier Messiaen. Cécile Sauvage est morte prématurément en 1928, donc je ne sais pas précisément s'il l'a connue. Il était très intime avec Olivier Messiaen, mais est-ce que cette semi-recluse à cette époque-là le recevait, je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a mis en musique quatre de ses poèmes, dont trois sous la forme d'un cycle qui s'appelle « Trois poèmes de Cécile Sauvage », qui sont également souvent chantés. Et je crois qu'il n'a pas été le seul compositeur à mettre en musique des poèmes de Cécile Sauvage. Je crois que Messiaen en a mis au moins un. La première Madame Messiaen, Claire Delbos, en a aussi mis plusieurs en musique. Mais c'est une poétesse qu'il appréciait beaucoup. Je citerai encore des noms comme Paul Fort, Heinrich Heine ou Henri Heine, parce que c'est plutôt le versant français de Heine dont il s'agit ici. Paul Valéry, Loïs Masson, qui est le poète d'origine mauricienne, qui avait écrit ce magnifique poème sur l'Annonciation, dont il a fait une cantate. Voilà. Parmi les œuvres de mon père, je crois que tout le monde s'accorde à considérer le Cantique des Cantiques, qui est une cantate a cappella pour 12 voix réelles, comme un sommet. Donc je ne me distinguerai pas de l'opinion générale, c'est une œuvre effectivement que j'aime énormément, mais j'ai le privilège d'avoir entendu à peu près toutes ses œuvres, d'avoir des enregistrements le plus souvent privés de la plupart, et donc d'avoir une perspective plus large. Et je crois que je citerai également dans les œuvres que je préfère ou que j'aime particulièrement un cycle de mélodies de la fin qui s'appelle « Le voyage d'automne ». Je pourrais citer d'autres mélodies, mais je ne le ferai pas. Pour parler d'autres œuvres, je citerai bien entendu Andrea del Sarto, qui est certainement un autre sommet aux côtés du Cantique des Cantiques, Ondine. Et là, je m'abrite lâchement derrière l'opinion d'Olivier Messiaen lui-même, qui a dit qu'il y voyait le chef-d'œuvre de Daniel Le Sueur. Et puis, pour parler d'œuvres de musique pure, sa sérénade, certainement, et sa symphonie d'ombre et de lumière. Mon père était un grand pédagogue. C'est l'opinion exprimée par beaucoup de ses élèves. Parmi ses élèves, on compte des musiciens comme Oana, comme Wismer, comme Jean-Jacques Werner. Et je dirais qu'au-delà des musiciens, il a été également un pédagogue remarquable avec ses enfants et avec moi-même. Nous avions, dans les années 50, le privilège, finalement, d'être dans une époque où le chef de famille rentrait assez facilement déjeuner à la maison. Ça faisait partie des choses Bon, ma mère ne travaillait pas, peu de mères travaillaient, et finalement, c'était considéré comme tout à fait normal de servir déjeuner familial. Alors, on rentrait de l'école, du lycée, et mon père rentrait, par exemple, de la maison de la radio. Je ne sais pas si elle était déjà construite, mais enfin, des établissements prédécesseurs. Et on avait, au déjeuner et au dîner, des échanges très complets sur tout ce qui se passait, sur la musique, etc. Et mon père apportait toujours, d'abord, une grande clarté de vue. Il avait des clartés sur beaucoup de sujets et tirait toujours les choses vers le haut. C'était un homme de vision et en même temps d'une très douce et persuasive discipline. Donc, qu'en ai-je retiré ? Certainement des valeurs, certainement aussi une conception de la meilleure manière de faire de la pédagogie, même si moi-même je n'ai pas du tout ou très peu eu à être pédagogue, et finalement un grand bonheur. À côté de sa création musicale, dont j'ai dit le caractère central pour lui, mon père avait, je crois, depuis sa jeunesse, un idéal qui était la démocratisation de la culture et de la musique, à savoir d'assurer l'accès du plus grand nombre, je crois que c'était l'expression qu'on employait à l'époque, à la meilleure qualité musicale et artistique. Et ceci, non seulement avec les instruments dont il a été un des découvreurs pour la partie musicale, qui était la radio et la télévision, mais aussi à travers l'enseignement musical. Il a beaucoup travaillé auprès de Marcel Landowski à la refondation de l'enseignement de la musique en France, de la diffusion musicale. Ce sont les grandes institutions, les orchestres, les ensembles vocaux, les ensembles instrumentaux, la réimplantation ou la dynamisation, plus exactement, de la vie musicale des grandes villes et moins grandes villes françaises. Toutes choses qui, aujourd'hui, ont produit des résultats tout à fait considérables. Mais cet idéal, je le souligne au passage, me paraît un des marqueurs importants de cette génération. Quelles qu'aient été les options politiques, on retrouve ça aussi bien à Vichy que dans la Résistance, par exemple. C'est une idée qui, finalement, est contemporaine du Front populaire, mais qui était beaucoup plus générale que simplement la gauche. Et c'est une idée qui a animé cette génération, mais qui, peut-être, n'a plus la même vitalité aujourd'hui. Enfin, je voulais y faire allusion parce que c'était quelque chose de très important pour lui. Thank you.